Jean 17 cet après-midi, Jean 17, vous vous rappelez la semaine dernière, c'est le texte qu'on avait. Et on retourne à ce texte parce que on fait la partie 2. La semaine dernière, on a commencé à voir nos relations avec autrui. C'est la série sur notre victoire en Jésus-Christ, la vie victorieuse en Jésus. Et on a commencé à voir la semaine dernière, je vais résumer brièvement ce qu'on a vu la semaine dernière. Et on va aller plus loin avec... Pour clôturer cette petite aparté là, de deux messages sur le même thème, nos relations avec autrui. De quoi on a parlé la semaine dernière? Ben, c'est dans le texte l'unité spirituelle. Ce n'est pas, excusez, je n'ai pas dit le verset, Jean 17, 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire et la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Avez-vous comment vu de quelle fois Jésus dit qu'ils soient un comme nous sommes un? Il parle d'unité. Et dans le dernier message, qui était la partie 1 de nos relations avec autrui. Aujourd'hui, on considère la suite, mais on a considéré dans le dernier message l'importance fondamentale de l'unité spirituelle. Mais pas dans n'importe quelle perspective. L'unité spirituelle, c'est important pour la croissance et l'avancement de l'œuvre de Dieu. Parce que ça dit ici que Jésus prie qu'il soit parfaitement un pour que le monde connaisse. Pour que le monde connaisse que nous sommes de Dieu, il doit avoir cette union organique qui montre que nous sommes tous issus d'un même. On n'est pas une secte, on n'est pas un club social glorifié. Nous sommes le corps de Christ, nous sommes ses enfants. Et notre unité démontre quelque chose par rapport à cette œuvre de rédemption. Et c'est vraiment déterminant, on l'a vu, hein, par rapport à l'avancement de l'Évangile. Comme on a vu avec, dans un champ, si quelqu'un est seul avec une faux versus une moissonneuse-batteuse, hein, ça marche pas mal mieux. Mais si la moissonneuse-batteuse est en plein de pièces détachées comme ça, ça marche pas très, très bien. Mais de la même manière, si le peuple de Dieu n'est pas uni, on peut pas faire autant. Mais quand on est unis ensemble, on peut faire beaucoup plus de travail que juste chacun tout seul dans notre petit coin avec notre faux comme ça. Donc, on avait vu la semaine dernière, en introduction à tout ça, comment Dieu... Je ne sais pas si je vais rappeler mon avis, comment Dieu nous approche par rapport à la question de nos relations avec autrui. Comment Dieu nous approche? Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. On a vu qu'on peut avoir de la miséricorde envers les autres parce que Dieu l'a eu envers nous. On peut pardonner parce que nous, on a été pardonnés. On peut aimer parce qu'on a été aimé. Rappelez-vous, on approche les autres à la lumière de comment Dieu nous a approchés. Donc, nos relations avec les autres sont un reflet de son approche envers nous. On a vu aussi dans le dernier message comment on a besoin de rester constamment conscient de nos propres faiblesses. Quand on approche les autres, au lieu d'arriver en voyant tous leurs problèmes, on doit, lorsqu'on est saisi par la présence de Dieu, on a vu comme dans Ésaïe, hein, Ésaïe qui a vu la gloire de Dieu, puis qu'est-ce qu'il a dit? Ah oui, ils ont donc des problèmes eux autres. Non, il a dit, malheur à moi qui suis un pécheur. Même chose avec Jésus qui est tombé au pied de Jésus. Lorsqu'on est dans la présence de Dieu, lorsqu'on est saisi par la présence de Dieu, on focus sur nos problèmes, nos lacunes, et non pas celles-là sur celles d'autrui. Pas qu'on les ignore, mais c'est pas ça l'objet de notre attention. Puis là où on veut tout se vouer, comme on a vu ce matin dans le message avec Abdias sur l'orgueil. Maintenant, ayant dit ces choses, juste pour un peu se rafraîchir la mémoire, j'aimerais qu'on se penche maintenant sur nos responsabilités individuelles par rapport à ces questions collectives de l'unité spirituelle. Hein, ça dit « vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit ». Donc, comment que je m'efforce, moi, à conserver cette unité? Puis en passant, ça ne dit pas de créer, ça ne dit pas d'essayer de la faire, ça dit conserver l'unité de l'esprit. Le Saint-Esprit Le Dieu trinitaire est parfaitement uni. Son œuvre est bonne, est parfaite. Nous, on est appelés à la conserver. On n'a pas besoin de la créer, on n'a pas besoin d'essayer de se demander comment. Dieu, c'est on rentre dans son œuvre, on est appelé à conserver ce que lui fait. Donc, trois responsabilités individuelles dans nos relations avec autrui. La première, c'est que nous sommes responsables, écoutez bien, on est responsable de notre propre caractère et des besoins d'autrui. Écoutez ce que je vais vous dire ici, ce que je vais vous lire, pardon. Romains 14, 4. Qui es-tu, toi, qui juge un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Je suis pas responsable du caractère de quelqu'un d'autre, de comment l'autre, où est-ce qu'il est rendu dans sa marche avec le Seigneur, où est-ce que, comment Christ est formé dans sa vie. Je ne suis pas appelé à juger son caractère. Un disciple de Jésus-Christ qui est en santé va ressembler de plus en plus à son maître, donc son caractère va être de plus en plus forgé à l'image de Christ. OK? Et ça, mes amis, personne ne peut le faire à notre place. Moi, hein, que je voudrais, là, comme votre pasteur, que vous soyez rendu là, puis là, puis là, je peux pas le faire à votre place. Je peux prier là-dessus, je peux vous proclamer la parole, je peux vous encourager, vous exhorter, toutes sortes de choses. Mais on peut pas faire à la place de quelqu'un d'autre. Il faut faire attention. Des fois, on prend ça. Ah, j'ai mon ministère, je vais changer les autres. Ça peut paraître spirituel, mais en réalité, c'est de l'orgueil. C'est se prendre pour Dieu. C'est Dieu qui change le caractère, le cœur. On est appelé à être une bénédiction pour les autres, les aider, les assister, mais on ne peut pas les changer. C'est Dieu qui change, puis il faut qu'eux se laissent changer par Dieu. Écoutez ce que ça dit. On a vu ce matin l'humilité, hein? Un bon passage par rapport à ça. Philippiens 2, 2. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Non seulement, je ne dois pas m'attendre, et là je vais vous dire quelque chose, ça peut être un peu troublant ce que je dis, je ne dois pas m'attendre à ce que mes besoins soient comblés par les autres. Ah ouais, je ne dois pas m'attendre à ça? Non, on ne doit pas s'attendre à ça. Mais en plus, j'ai la responsabilité de combler les leurs. Mais ça, je suis perdant dans cette affaire-là. Moi, il faut que je m'occupe des problèmes des autres. Puis les autres, je ne veux pas que je m'attende qu'ils s'occupent des miens. Mais si tout le monde fait ça, pensez-vous, tout le monde va être comblé. L'idée, c'est le focus. OK? On sait très bien que l'approche, là, je disais tantôt au ministère, mais pour être un peu moins subtil, je vais aider les autres à changer. Hein? Dans toute ma bonne volonté. Si je me donne la mission de changer les autres, savez-vous ce que ça va faire? Ça va créer des tensions et des frictions dans toutes mes relations. Aimez-vous ça, quelqu'un qui arrive et qui vous dit tout le temps ce qui ne marche pas avec vous autres, puis ce qui a besoin d'être changé? C'est irritant, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que le focus, c'est le problème. Le focus, c'est pas le Seigneur, c'est pas ce que lui peut faire, c'est ce que moi j'essaye de faire. Et c'est pour ça que ça ne porte pas du bon fruit, parce que Dieu n'est pas le centre, le problème est le centre. Et c'est pour ça que ça ne peut pas porter du bon fruit relationnel, parce que Dieu n'est pas celui qui est le centre d'attention. Donne un exemple. Face à un problème, une situation qu'on peut vivre, au lieu de se lancer à pieds joints, avec notre propre sagesse, puisqu'on voit donc ce qui peut aider l'autre, arrêtez-vous. Arrêtez, sachez que l'Éternel est Dieu. Et recherchez sa face. Dieu n'est pas contre le fait qu'on aide les autres. Il veut juste pas qu'on arrive là avec nos gros sabots puis avec notre sagesse à nous-mêmes pour essayer de tout faire à sa place. Dieu, oui, veut se servir de nous autres, mais il veut pas que nous, on prenne les devants. Arrêtez, sachez que l'Éternel est Dieu et cherchez sa face. Cherchez sa volonté pour qu'il vous dirige. Parce que Dieu veut qu'on s'entraide, il veut qu'on s'aide les uns les autres. Mais il ne veut pas qu'on le fasse à sa place. Il ne veut pas non plus qu'on le fasse en essayant de se servir de lui. Lui veut se servir de nous. Tu sais, c'est pas comme, « Hey, Dieu, je veux changer Kevin, là, puis aide-moi à changer. » C'est pas la bonne approche. « Dieu, je vois Kevin, il y a quelque chose, je l'aime. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour l'aider? » Des fois, Dieu va dire juste « Prie. » Ou « Va parler avec, fais juste l'écouter. Il a besoin d'être entendu. » Peu importe, comprenez-vous? C'est pas qu'un exclut l'autre, j'ignore Kevin. Non. Mais je veux que ce soit Dieu qui l'aide à travers moi. C'est vraiment l'approche qui est tout à fait différente. Jésus a dit, savez-vous quoi? Si on fait ça, on va voir la gloire de Dieu parce qu'on croit. Jésus a dit, avec la résurrection de Lazare, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si je crois que Dieu est capable de faire quelque chose dans la vie de mon frère, de ma soeur, si je crois que Dieu il est plus sage que moi, si je crois que ça vaut la peine de s'attendre à lui, je vais voir sa gloire, je vais voir ce que lui, il fait. Il va se montrer comme étant le Dieu qui vraiment est vivant puis qui est capable de faire les choses. Puis pour ça, mes amis, c'est pas facile. C'est pour ça que la Bible nous dit c'est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Des fois, on est là puis on s'avance puis on a plein d'affaires à dire, alors que c'est même pas le temps de parler ou de dire ou de faire quoi que ce soit. C'est juste d'attendre. En fait, Moïse était assez direct. Ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. L'Éternel combattra pour vous et vous, gardez le silence. Des fois, c'est la meilleure chose qu'on peut faire, garder le silence devant Dieu, puis après ça, attendre le go du Seigneur. OK, vas-y. Donc, être responsable de notre propre caractère, puis de s'occuper des besoins des autres, certainement, c'est contre nature. C'est pas ce que nous, on ferait naturellement dans notre humanité, mais ça fait place au surnaturel. C'est contre nature, mais ça fait place à ce que Dieu veut faire dans nos vies. Ça m'amène au deuxième point dans nos relations avec les autres. Non seulement on est responsable de notre propre caractère, laisser Dieu travailler sur nous, puis nous vouloir bénir les autres dans leurs besoins, mais aussi la deuxième responsabilité que nous avons, nous devons nous concentrer sur nos responsabilités, non pas sur nos droits. Je ne sais pas si vous savez, mais dans les deux dernières années, on a réfléchi un peu là-dessus. Rappelez-vous, ça fait pas mal, j'essaie de me rappeler, je n'ai pas été voir dans mes notes, là, puis dans les messages que j'ai prêchés, mais j'avais prêché un message sur la notion de collectivisme. Connaissez-vous c'est quoi le collectivisme? Toi, tu te prives en tant qu'individu au nom de la collectivité. Et j'ai dit qu'il y avait un fondement chrétien à ça. Jésus, lui mort, lui juste pour les injustes, un qui souffre pour bénir les autres. Fait qu'il y a un fondement biblique à ça, mais le collectivisme, le problème, je ne sais pas si vous vous rappelez, je l'avais dit, c'est quand tu l'imposes à quelqu'un. Toi, tu étais obligé de te forcer pour tous les autres, avec les esclaves, puis toutes les... J'avais donné des exemples là-dessus. Le collectivisme, comme c'est vécu en ce moment, ce n'est pas biblique. Parce qu'il n'y a plus la notion, comme on dit, de libre-arbitre. C'est comme, tu es obligé de faire ça, puis tu n'as pas le choix. Alors que... Dans le sens biblique, Jésus s'est donné lui-même. Et nous, lorsqu'on se donne nous-mêmes en acte d'adoration pour bénir les autres, ça c'est beau, mais c'est pas quelque chose encore là qu'on peut forcer sur quelqu'un. Donc, moi, quand je suis disposé devant le Seigneur et que je me concentre sur ma responsabilité, je ne vais pas me concentrer sur mes droits. Et la question, c'est vraiment, où est-ce que je mets l'accent? Sur quoi je me concentre? Je vais vous donner trois exemples, ça va vous aider à comprendre, là. Ou est-ce que, au lieu de me concentrer sur les droits que j'aurais le droit d'avoir, je me concentre sur mes responsabilités? Trois exemples, tout le monde va se retrouver là-dedans. D'abord, dans le mariage. Est-ce que c'est vrai que la parole dit que la femme doit être soumise à son mari? Oui. C'est vrai? Bon, OK. Puis le mari, est-ce qu'il a le droit de dire à sa femme, puis de s'attendre à ce que sa femme soit soumise envers lui? Oui? Oui. Ben oui, non, mais il peut s'attendre à ça, je veux dire, OK. Mais là où il y a un problème, là où souvent les tensions peuvent venir, c'est si l'homme néglige sa responsabilité d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Donc, avec la balance, responsabilité versus droit. L'homme est responsable d'aimer, mais il a le droit de s'attendre à ce que sa femme soit soumise à lui. Où doit être la priorité du mari? Où doit être son attention?
L'amour de sa femme.
Aimer sa femme. Sinon, ça va tout le temps créer des tensions. Mais tu n'es pas soumise comme tu devrais, c'est à cause de ces problèmes. L'attention n'est pas à la bonne place. C'est pas parce qu'il n'y a pas le droit, c'est parce que son attention est sur le droit qu'il aurait, au nom de ce qu'il a, et non sur sa responsabilité. Deuxième exemple, là c'est facile, c'est l'autre côté. La femme, elle peut picosser son mari parce qu'elle est en droit de s'attendre à ce que son mari soit le leader spirituel qu'il devrait être, n'est-ce pas? Parce que l'homme est le chef du foyer. Et c'est un ordre divin. Dieu a ordonné les choses comme ça. Par contre, elle a la responsabilité de respecter son mari dans ses rapports avec lui. Encore là, où doit être l'emphase chez cette femme? Sa responsabilité envers son mari de le respecter, ou son droit d'avoir un mari qui dirige comme il devrait diriger? Respecter son mari, voyez-vous, la responsabilité. Dans la famille, est-ce que les parents doivent se concentrer sur le droit qu'ils ont que leurs enfants se soumettent à eux? Attends, ici, je l'ai mis où la référence? OK. Ou sur le fait de ne pas hériter vos pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Et où l'accent? Où est-ce qu'on doit se concentrer pour diminuer les tensions? Sur la responsabilité en tant que parent qu'on a de les corriger et de les instruire dans le Seigneur. Oui, on peut s'attendre à ce que je mets, puis ils doivent l'être. Mais tout est une question de où est mon attention. Une m'amène à dépendre du Seigneur et à humblement dépendre de lui. L'autre m'amène à dépendre de ce que moi je peux faire puis dépendre de l'autre. Puis je veux qu'il fasse ci, puis je veux qu'il fasse ça. Un dernier exemple, j'en avais trois, mais c'était quatre, un autre, c'était comme en deux, là, mari et femme, mais dans une église locale comme la nôtre, est-ce que les membres de l'église, est-ce que le fait d'être membre de l'église me donne le droit de critiquer les autres ou de les ramasser par rapport aux différences qu'ils peuvent avoir au niveau des opinions et tout ça? Ou est-ce que ça me donne plutôt la responsabilité de les aimer, de me soumettre aux autorités spirituelles qui donnent une direction par rapport aux relations interpersonnelles dans l'église? Où est la responsabilité? Je pense qu'on a une belle réponse ici dans Colossiens. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet se plaint de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc, vous voyez le topo. Vous avez l'idée, là? Lorsqu'on va faire face au Seigneur, au jugement du tribunal de Christ, où va être l'emphase? Le Seigneur va nous dire: ah, est-ce qu'un tel et un tel t'a donné de la misère, puis est-ce qu'il t'a donné ce que tu étais supposé de recevoir? Est-ce que c'est ça que le Seigneur va nous dire? Ou il va dire plutôt: est-ce que tu as accepté, tu as pris la responsabilité de souffrir pour le bien puis le péché des autres? Est-ce que tu as accepté ça? Et savez-vous, ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Paul dit: j'ai appris à être content dans l'état dans lequel je me trouve. Et on peut aussi apprendre à servir, à aimer les autres sans nous attendre à recevoir quelque chose en retour. Et savez-vous quoi? C'est l'expérience la plus libératrice qui soit, parce que c'est là que le Seigneur travaille. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. On est libre d'aimer même si on n'est pas aimé en retour. On est libre de bénir même si on n'est pas béni en retour. Puis là, après ça, quand il arrive quelque chose, ben je suis pas déçu parce que mon focus n'est pas là. Puis s'il arrive quelque chose de beau, puis une bénédiction, ben hey, c'est juste une cerise sur le sundae, puis je suis content que ça me bénit, que là. Parce que savez-vous quoi? Si on décide de prendre nos responsabilités par rapport aux autres, puis je m'entends pas à mes droits, savez-vous quoi? Le Seigneur est bon, puis on va être béni pareil. On sera pas tout seul, rachitique dans notre coin, avoir donc de la misère. Hein, non, Dieu n'est pas comme ça. C'est notre foi qui croit ça, par exemple. Si je crois que moi, je m'occupe de ma part, Dieu va s'occuper de la sienne dans la vie des autres. Et n'est-ce pas ce que la Bible nous dit? Pas si nous qui sont endettés, là. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. C'est ça notre responsabilité. Puis ça, de ça dépend toute la loi et les prophètes. Il y a toutes les ramifications qui vont avec ça. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. Ainsi, au lieu de tout le temps être déçu, puis de ne pas être content, je vais pouvoir trouver la satisfaction. Mais là, il y a un « oui, mais » qui peut monter dans mon cœur. « Ouais, mais cette personne-là m'a fait mal. Est-ce que je devrais l'ignorer? C'est pas bien, là, je dois y dire. » OK, c'est vrai. Quand il y a des problèmes, la clarté dans la communication, on peut en parler à la personne. On peut dire les choses, la vérité dans l'amour. Mais attention, il faut faire attention. Oui, on est responsable, on peut avertir la personne, on peut y parler, puis tout ça. Mais on n'est pas responsable de convaincre cette personne-là de pécher. On n'est pas responsable de convaincre cette personne-là de comment changer, puis de changer là, puis à ce moment-là. Savez-vous quoi? On doit faire confiance à Dieu pour ça. Ça, c'est le bout qui est dur. Hein, quand on est marié, quand on a une famille, des enfants, et ils ne sont pas tout le temps comme on voudrait les autres. Hein, pour qu'on fasse confiance à Dieu que lui, il est déjà en train de travailler dans ce sens-là. Puis, ces personnes-là, vous savez quoi? Je l'ai déjà dit, souvent sont bien conscientes de leurs problèmes, puis ont une lutte même dans leur cœur par rapport à ça. Mais au moment où moi, je veux essayer d'intervenir, puis moi, de prendre les choses en main, de régler la situation, je prends la place de Dieu. Parce que c'est Dieu qu'il faut que j'y amène à ce point-là. Puis qu'il se jette dans les bras de Dieu. Il ne faut pas que je jette dans mes bras, je ne suis pas un sauveur. Puis comprenez bien, là, c'est pas que je ne suis pas appelé à avoir un rôle instrumental dans les mains de Dieu, mais je suis un instrument, je ne suis pas le sauveur. Ça m'amène à la troisième responsabilité que nous avons. Nous devons exercer la discipline et non pas le jugement. Et là, je vais vous expliquer la distinction entre les deux. Jésus a dit, hein, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Bon, c'est quoi ça veut dire, juger? Ben, on va y aller par contraste. Jésus dit de ne pas juger. Paul, par contre, de nos côtés, nous parle de la discipline chrétienne. Je vous donne des exemples. Je vais vous les donner en rafale. Dans 1 Corinthiens 5, Paul dit, au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit êtes assemblés par la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Dans 1 Timothée 1:20, de ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Aussi dans Galates 6, un frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois tenté. Donc, comment on fait la distinction? On est appelé à ne pas juger, mais ici, Paul dit, ben là, s'il y a quelqu'un, il faut qu'il soit discipliné. La différence entre le jugement et la discipline, c'est que, là, écoutez bien, c'est super important ce que je vais vous dire. Distinction, là, OK, il ne reste pas beaucoup de temps au message, j'ai besoin de toute votre attention. Le jugement, c'est relié au caractère, à ce qui me compose profondément, ce que je suis. La discipline, c'est relié au comportement, ce que je fais. Il y en a un qui est intérieur, l'autre qui est extérieur. Donc, la discipline doit se fonder sur quelque chose qu'on peut voir ou entendre. Quand je discipline quelqu'un, c'est sur ce que j'ai vu et entendu cette personne-là. C'est pas un vous dire « Hey, t'as donc mal l'air d'un hypocrite. » Tu sais, là, je me juge sur le caractère et tout ça, sans me fonder sur quelque chose. Mais si je vois une personne qui use de duplicité avec ce qu'elle dit puis ce qu'elle fait, ben là, je me base sur le comportement. Je vais vous expliquer un peu plus, ça va vous aider à comprendre. D'abord, si on est témoin d'un autre chrétien qui pêche, OK, la Bible nous dit dans Matthieu, Jésus lui-même, en fait, dans Matthieu 18, nous dit qu'on doit le confronter. D'abord seul, ensuite, bon, puis même d'abord quand on est seul, c'est quoi le but? Le but de la discipline, c'est quoi? Donner un bon coup de marteau sans tête, pas qu'il recommence? Non, c'est le but, c'est de ramener, de restaurer. Le but de la discipline, c'est restauratif, c'est pas punitif. Puis là, s'il ne nous écoute pas, on y va à la deuxième étape, qui a le même but encore. Troisième étape, devant l'Église, toujours le même but. Donc, il y a une intensification de l'approche à cause de la réponse négative de la personne. L'approche devient de plus en plus dure parce que le cœur est dur. Parce que la personne, si elle refuse pas, c'est réglé dès la première étape. Si elle refuse, là, on est obligé d'y aller plus fort. Bon, toujours la même discipline dans le but de restaurer, mais là, il faut qu'on soit deux ou trois témoins. Puis après, quand ça arrive devant l'Église, parce que là, vraiment, la personne est endurcie. Puis elle ne veut pas se repentir. Donc, on est obligé de prendre, comme on dit, au grand mot, les grands remèdes. OK? Donc, c'est la discipline. L'objectif, ce n'est pas de condamner la personne, mais de la restaurer à Jésus-Christ, de la confronter sur son péché pour qu'elle se repente. Mais il y a une grande tentation, quand des moments viennent comme ça, de juger le caractère de la personne. Puis là, je vous explique. Si je prends quelqu'un en flagrant délit de mensonge, okay? Quelqu'un qui a dit un mensonge, là, c'est évident. Okay? Je peux dire que tu es un menteur. Je vais prendre un pauvre Kevin. On va pointer quelqu'un et dire que tu es un menteur. Okay? Ça, dire ça, t'es un menteur, ça serait un jugement parce que je m'attaque au caractère de la personne. Je dis, c'est ce que tu es. Tu es un menteur. Okay? Je déclare un jugement sur cette personne. Ça serait beaucoup mieux de dire, est-ce que tu viens de dire quelque chose qui n'est pas vrai? Là, savez-vous quoi? Là, je me déclare ce que j'entends, ce que la personne a dit. Okay? J'attire l'attention sur son comportement et non sur son caractère. Ou même encore mieux, si je parle à quelqu'un que je sais qui est un chrétien, t'es pas un menteur. Pourquoi d'abord tu dis pas la vérité? Parce que si c'est un enfant de Dieu, il agit hors de ce que Dieu a fait de lui. Tiens, en tant qu'enfant de Dieu, notre identité, c'est pas menteur, pécheur, c'est un enfant de Dieu. Fait que voyez-vous, avec ma première expression, t'es un menteur, j'insinue que le caractère de la personne, ce qu'il définit, c'est d'être un menteur, puis que dans le fond, il peut pas changer parce que c'est ce qu'il est. Mais avec les deux autres expressions, je ne m'attaque pas à la personne, mais je les pointe vers un problème évident dans leur comportement. Voyez-vous, je n'ignore pas le problème, mais je l'attaque de la bonne façon. Ainsi, je donne à la personne l'indication que dans son comportement, il y a quelque chose qui ne marche pas, qu'elle a quelque chose sur lequel elle doit travailler, puis que si je l'aurais traité de menteur, de stupide, d'arrogant, de méchant, puis tout ça, je m'aurais attaqué à son caractère. C'est comme si j'avais dit qu'elle ne pouvait pas changer. L'un qui donne de l'espoir, l'autre qui l'enlève complètement. Voyez-vous comment ça change absolument tout? C'est vraiment important ce qu'on regarde là. Pas juste dans une église, là, dans nos relations avec les autres. Mais bien sûr, la grâce de Dieu ne s'arrête pas là. C'est pour ça que c'est important de distinguer entre la discipline et la punition. OK? Fait que je vous amène une autre distinction. Là, j'ai fait entre jugement et discipline. Maintenant, en discipline et punition. Quand on a le concept de punition dans la parole de Dieu, l'arrière-plan, c'est la loi du talion. Un œil pour un œil, un pied pour un pied, un eye for an eye, une dent pour une dent, OK? La loi du talion, tu sais, c'est on paye pour... L'arrière-plan, c'est par rapport au passé. T'as fait ça, ben là, ça regarde au passé, OK? Mais... écoutez bien, est-ce que Dieu punit le chrétien dans ce sens-là? Ou si plutôt la punition pour notre péché est tombée sur Christ? N'est-ce pas ce que la Bible nous enseigne? C'est le châtiment de nous-mêmes qui est tombé sur lui. On n'est pas puni parce que Jésus a subi la punition à notre place, n'est-ce pas? Écoutez, là, si vous ne me croyez pas, je vais vous le dire dans un des plus beaux passages de la Bible. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc, c'est clair. Par contre, si on considère la discipline, elle regarde en avant. Elle regarde vers l'avenir. Parce qu'elle a le but de former le caractère à la ressemblance de Jésus-Christ. Elle s'attaque à la source du problème, au péché. Parce qu'elle dit, la façon que tu agis, ce n'est pas en conformité avec ce que Dieu a fait de toi. Tu ne t'en vas pas dans la direction dans laquelle Dieu t'amène. Tu agis en dehors de ce que Dieu a fait de toi. Là, tu agis comme un menteur, puis tu as été libéré du mensonge. Tu comprends? Comprenez-vous ce que je dis? Il y en a qui regardent au passé, ça te définit, mais là, c'est ça. Puis là, tu regardes à l'avenir et tu dis, regarde, je veux t'aider à aller là où Dieu t'amène anyway. C'est ça l'idée de la discipline. Un qui regarde en avant. C'est pour ça que je dis, quand on discipline, on veut ramener à Christ, on veut restaurer la personne en regardant à l'avenir. C'est vraiment, tu vois, il y en a qui condamne, tu dis, t'es le même tout le temps, t'es le même, puis t'es un menteur. Puis là, qui dit, t'es une personne qui ment, puis ça n'a pas rapport avec ce que Dieu a fait de toi. Tu agis en dehors de ce que Dieu a fait de toi dans sa grâce. Et la discipline, c'est dans où le mot châtiment est dans la Bible. C'est une chose que je dis souvent à des chrétiens. Des fois, les gens se demandent, ah, il est sauvé celle-là? Et là, il s'éloigne de Dieu. Puis, il y a une promesse. Dieu promet de châtier ceux qu'il aime, qu'il reconnaît comme ses enfants. Savez-vous quoi? Ça, là, c'est des gens, des fois, ils vous disent, ah, il ne doit pas être sauvé, et tout ça. OK, si après 20 ans, on voit qu'il n'y a jamais rien qui est arrivé, on peut vraiment être, peut-être moins que 20 ans, mais on peut douter que la personne est un enfant de Dieu. Mais en même temps, on peut être certain avec une certitude à 100% que si c'est un enfant de Dieu, il va être châtié pour être ramené. Écoutez, à ce sujet-là, Hébreux 12, Verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Et donc c'est ça. Dieu châtie ceux qu'il aime pour les ramener à lui. Et donc la discipline s'est faite dans son amour, dans le but de produire un fruit paisible de justice par ceux qui sont ainsi exercés. Je vais terminer avec un dernier « oui mais ». Je vais parler de « oui mais » tantôt. Un autre « oui mais » qui peut s'immiscer dans notre pensée avec toute la question de mes relations avec les autres. C'est là que c'est compliqué. Ça irait bien les relations avec les autres si les autres n'avaient pas de problème. Hein? Mais on a tous des problèmes, puis tu sais, les autres peuvent dire ça de nous aussi. D'abord, si l'autre m'a attaqué, puis de façon légitime, je suis en droit de dire « c'est mauvais, c'est pas correct, je dois pas laisser ça aller ». Qu'est-ce que je dois faire? Je vous donne la réponse de la parole de Dieu, sur Jésus lui-même. Ça, c'est dans 1 Pierre, au chapitre 2, c'est une citation de Ésaïe 53 qu'on a lu tantôt. « Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Qu'est-ce qu'on apprend de ça? On doit apprendre à réagir de la même façon. C'est-à-dire, on n'a pas à se défendre nous-mêmes. Si on a tort, ben, on n'a pas à se défendre. Si on a raison, on n'a pas à se défendre non plus. Parce que si on a tort, ben, on a tort. Tu sais, je veux dire, on a juste à l'admettre, puis on n'a pas à se défendre, on a juste à l'admettre. Puis si on a raison, Dieu va s'occuper de nous faire justice. Parce que Jésus est mon défenseur. Il est celui qui est ma justice. On a simplement à s'en remettre à Dieu et laisser l'issue de la situation entre ses mains. Comme ça, on va apprendre, au lieu d'être sur la défensive lorsque notre caractère est attaqué par d'autres ou qui veulent essayer de nous exposer à l'ignominie ou dans notre comportement, les choses qu'on fait, lorsque ça, c'est sous attaque, on a l'occasion de virer les choses de bord pour, au lieu d'être à la défensive, d'être sur l'offensive de la grâce, de bénir, de servir, d'avoir une attitude envers les autres qui vont être en lien avec notre caractère, ce que Dieu a fait avec nous autres. Et savez-vous quoi? Personne n'attaque quelqu'un qui est en position de force. Lorsque je me tiens dans mon identité en Jésus-Christ, je sais en qui j'ai cru et ce que Dieu a fait de moi. Je suis inébranlable, pas arrogant. Mais je sais en qui j'ai cru, je sais ce que Dieu a fait de moi, j'ai pas à me défendre, je peux m'en remettre au juste juge. Jésus, c'est ce qu'il a fait, lui, il s'en remet, mais lui, il était irréprochable. Mais il n'avait pas à être à la défensive parce qu'il s'en remettait à Dieu. Et si on est sécure dans l'amour de Dieu, dans notre identité en Jésus-Christ, on peut apprendre à ne pas être sur la défensive lorsqu'on est attaqué, mais à s'en remettre à celui qui fait toujours justice. Et là-dessus, je termine avec on pourrait dire un poème, j'ai pris ça, j'ai trouvé ça vraiment bon. Ça va vous expliquer pas mal dans ce que je voulais dire avec toute l'idée de Jésus-Christ puis le passage que j'ai lu dans 1 Pierre au chapitre 2. Les gens sont irraisonnables, illogiques, égocentriques, aimez-les quand même. Si vous faites le bien, on vous accusera d'égocentrisme, de motifs ultérieurs, faites le bien quand même. Si vous avez du succès, vous aurez des faux amis et des vrais ennemis. Ayez du succès quand même. Si vous faites du bien aujourd'hui, ce sera oublié demain. Faites du bien quand même. L'honnêteté et la franchise nous rendent vulnérables. Soyez honnêtes et francs quand même. Les plus grandes personnes avec les plus grandes idées peuvent se faire descendre par les plus petites personnes avec les plus petites idées. Pensez grand quand même. Beaucoup favorisent les défavorisés, mais suivent les favorisés. Battez-vous pour les défavorisés quand même. Vous pouvez passer des années à bâtir ce qui peut être détruit en un instant. Bâtissez quand même. Certains ont besoin d'aide, mais vous attaquent quand vous les aidez. Aidez-les quand même. Si vous donnez de votre meilleur au monde, vous serez quand même attaqué. Donnez votre meilleur quand même. Voyez-vous l'idée? On ne fait pas à cause du résultat de ce qui arrive. On le fait parce que c'est la bonne chose, puis on le fait parce qu'on le fait comme au Seigneur. Et s'il est possible, autant que cela dépende de nous, soyez en paix avec tous les hommes. Et si ça, ça régit mes relations avec les autres, savez-vous quoi? Je vais en avoir des problèmes, je vais en avoir des affaires qui ne vont pas virer comme je voudrais. C'est pas grave, je vais avoir la conscience pure, je vais pouvoir continuer pareil à avancer avec le Seigneur dans la joie, dans la paix, parce que je sais que je fais ce qui est agréable à mon Père Céleste. Amen.
Amen.
Amen.